Alors, je reviens au schéma d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette Torah révélée, on attend Jacob pour la révéler. C'est clair ? Tant que le tzaddik d'une mida, il n'a pas besoin pour sa mida d'une révélation. Je reviens à l'analyse de tout à l'heure qui me semble importante. Le génie humain est capable de fonder un ordre religieux fondé sur la charité. Par exemple, le christianisme. Pas besoin de révélation, pas besoin de loi révélée. Il y a un fondateur d'ordre qui va vous donner une charte. Voilà comment on se comporte en charité. Est-ce que c'est clair ? Deuxièmement, je vais prendre peut-être l'exemple opposé du marxisme, du socialisme, disons. Bon, l'intuition socialiste, c'est que l'absolu, c'est l'idéal de justice sociale. Okay ? C'est la Midat Hadin. Alors, on n'a pas besoin d'une révélation pour avoir le code marxiste. Il suffit d'être soviétique. Vous avez compris le problème. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, chaque fois qu'une tradition humaine va, par intuition, choisir une des valeurs, elle va fonder sa religion sans qu'il soit nécessaire que le code soit révélé. Pourquoi ? Parce que c'est de l'ordre du génie humain d'être capable de formuler le code de telle ou telle vertu. Ça va jusque-là ? Dans le cas du judaïsme, enfin de l'hébraïsme, disons d'abord, il s'agit de l'unité des valeurs, la loi du comportement par rapport à la souveraineté de l'unité des valeurs est hors de portée de l'homme, elle n'est pas naturelle à l'homme, elle doit être révélée. C'est bien clair ? Vous avez là une définition de la halakha, que je vous donne en passant, que vous recoderez à votre cours de bibliographie. La recherche de la halakha, ce n'est pas une chose simple. Étant donné une situation concrète de l'existence, qu'est-ce que la Torah 1 dit de cela ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah va nous dire comme halakha, règle du comportement qui doit satisfaire toutes les valeurs à la fois. Si je veux déduire de la Torah un comportement d'après une mida seulement, c'est très facile. Okay ? Je fais réagir la Torah uniquement par la perspective de la charité. Ou je fais réagir la Torah uniquement par la perspective de la rigueur. Je n'ai pas la halakha, j'ai une opinion. Vous suivez ? La halakha, c'est de pouvoir formuler la règle du comportement qui satisfasse toutes les valeurs à la fois. Et c'est pourquoi l'étude de la halakha, la recherche de la halakha, ce n'est pas une chose facile. Il faut être un grand talmid chacham pour savoir ce que la Torah dit pour tel cas nouveau. Parce que par hypothèse, je peux lui faire dire des choses vraies, mais suivant tel ou tel critère partiel. La vérité totale, la halakha, ça dépasse l'entendement humain. Il faut des capacités spéciales. C'est clair jusque-là ? Vous avez compris le problème ? Bon. Bien, alors je reviens donc à notre question. L'affirmation de l'unité de Dieu, que ce Dieu qui est unique soit un, c'est celle-là qui est l'objet de notre lecture, de notre verset, et c'est un acte de foi. Un acte de foi qui est basé sur des preuves. Mais qu'est-ce que j'entends par acte de foi ? C'est au-delà de la raison. Au-delà de la raison, ça veut dire que c'est absurde. C'est tout le contraire. Ça veut dire que la raison n'est pas capable d'en rendre compte. C'est d'autres forces de connaissance qui en rendent compte. Ça va jusque-là ? Ça veut dire que le degré de certitude est absolu, mais ce n'est pas explicable par la raison. Au contraire, la raison ne peut que nier ça. Ça veut dire si le monde était que le monde de la nature, sans révélation, la vraie religion, c'est le polythéisme. C'est évident. C'est la religion naturelle. Vous avez compris pourquoi ? Parce que l'homme est plongé dans un monde plein de contradictions. Et des contradictions vraies. Le jour, c'est pas la nuit, c'est pas le jour, le bien, c'est pas le mal, quand quelqu'un souffre, et vous lui dites, ben, ça te fera du bien, c'est interdit par le Shulchan Aruch, c'est indécent. Ça veut dire, c'est comme si tu mets un obstacle devant un aveugle. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire semblant de consoler quelqu'un qui a du chagrin. Il sait très bien que c'est inconsolable. Okay. C'est blasphématoire. Donc il y a des formules très spéciales. Vous avez compris le problème. C'est-à-dire que c'est insolent, quoi. Je sais pas, non, je cherche un mot, mais impudique. Okay. Quelqu'un qui a mal, vous allez lui dire, bon, supporte, ça te fera du bien. Mais pour le moment, il a mal, il n'a pas du bien. Vous avez compris le problème. Et il veut bien savoir. C'est vrai.
Qu'est-ce qu'il faut faire? On laisse...
Pas du tout. Mais il ne faut pas faire semblant de se moquer de lui.
Non,
ah. La formule la plus simple, c'est « je souffre avec toi » et pas... Et pas que ce que tu souffres est supportable. C'est pas vrai. Vous avez compris ? Ça s'appelle la sympathie, souffrir avec. Bon. Je reviens au problème. C'est un problème qu'on étudie pour lui-même, les souffrances. Quand même. Il y a la France, la souffrance. Bon. Alors, on revient à notre. Et je vais raconter un midrash qui va bien vous faire comprendre la différence de mentalité entre le monothéisme, peut-être je demanderai une fois arrivant de vous le faire voir dans le texte en détail. Vous me rappellerez ça dimanche quand on sera là. Qui va vous faire comprendre la différence de mentalité entre le monothéisme hébreu et le polythéisme, disons, grec. Vous avez entendu parler de ce mythe, de ce thème de la guerre des dieux chez les polythéistes. Okay. Vous êtes un peu au courant de la mythologie grecque. Okay. Bon, les dieux se font la guerre. Qu'est-ce que c'est que cette idée absurde? Apparemment absurde. C'est pas du tout absurde, c'est la manière dont l'esprit humain, à travers la philosophie, a perçu le conflit des absolus. Qu'est-ce que ça veut dire les dieux se font la guerre? Ça veut dire les absolus sont contradictoires. Vous suivez? Bon, alors là, vous avez toute une mentalité, la mentalité du polythéisme, qui inévitablement bascule dans la mythologie de la guerre des dieux, parce que c'est la conséquence inéluctable. S'il y a des absolus, alors ils se font la guerre. Ils sont incompatibles entre eux. C'est clair jusque-là? Vous avez bien compris à quoi pense le polythéiste en parlant de la guerre des dieux, le conflit des absolus. Bon. Le Midrash va nous inverser complètement ce problème. Voilà ce que le Midrash raconte. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, les absolus, un certain niveau des anges, se sont opposés. Je crois que ça vaut la peine de vous étudier ce Midrash dans le texte. Et vous verrez la finesse de l'analyse. Lorsque Dieu a eu le projet de créer l'homme, les anges se sont opposés. Et on cite des versets à l'appui, mais je vous schématise là sans l'érudition qu'il y a derrière le Midrash. L'ange de la bonté a dit qu'il le crée. Pourquoi? Parce qu'il est capable d'être bon. L'ange de la justice a dit qu'il ne le crée pas, il est capable d'être injuste. L'ange de la vérité a dit qu'il ne le crée pas, il est plein de mensonges. Et donc le quatrième, c'était « Chesed ve medugashu tzedek ». Chesed machakou. Et l'ange de la je vous ai cité « Chesed ». Justice. Emet. Attendez une minute. « Tzedek ve medugashu ». Emet ve chesed machakou. Bon, alors je reprends les quatre anges. L'ange de la charité a dit qu'il le crée, parce qu'il est capable de faire la charité. L'ange du chesed, de la bonté, a dit qu'il le crée, il est capable d'être bon. L'ange de la justice a dit qu'il ne le crée pas, parce qu'il est capable d'injustice. Et l'ange de la vérité a dit qu'il ne le crée pas, parce qu'il est plein de mensonges. Vous y êtes? Bon. Ça veut dire qu'il y a deux contre deux, il y a teku. Comment on dit ça en français? Teku. Match nul. Okay. Bon, ça veut dire blocage. Okay. Ça veut dire, cette première donnée du Midrash est importante, l'homme est une créature incréable. Les anges ne sont pas d'accord sur la création de l'homme. Éternellement, il y a ce même conflit entre les absolus jugeant l'homme. Et alors, le Midrash continue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait taire la vérité. Alors, ils n'étaient plus que deux contre un, deux pour un contre. Il a fait taire la vérité et il a créé l'homme. Il a pris de vitesse le conflit des absolus, en mettant entre parenthèses la vérité, et il a créé l'homme. Alors les anges se sont opposés. Ils disent, comment tu fais taire la vérité? Si tu fais taire la vérité, plus, aucune valeur n'est plus valable. Parce que toute valeur n'est valable que parce qu'elle est vraiment valable. Alors si la vérité n'existe plus, il n'y a aucune valeur. Vous suivez? Bon. Alors Dieu répond par un verset, vous verrez tout le mécanisme du Midrash en l'étudiant, que la vérité germe de la terre. Bon, voilà le Midrash. Alors je vais isoler de ce Midrash ce dont nous avons besoin pour notre sujet. Ça veut dire que c'est l'inverse. C'est l'homme qui est une créature contradictoire. Et c'est pourquoi les absolus ne sont pas d'accord quant à l'existence de l'homme. Dans le ciel, il y a harmonie. Mais l'homme est contradictoire. Le postulat de la mythologie, c'est que l'homme est harmonique. Alors le ciel est contradictoire. Vous voyez qu'il y a une approche du problème radicalement différente. Le conflit des absolus, il est en l'homme. C'est clair? Et c'est pourquoi chacun des absolus juge cette créature qui est l'homme incréable. Avec, une minute j'ajoute, avec toujours le même argument. C'est parce que l'homme est libre qu'il est capable de charité. Mais c'est parce qu'il est libre qu'il est capable de mensonge. On apprendra d'autre part que les anges ne sont pas libres. Les absolus ne sont pas libres. Ils sont ce qu'ils sont. Okay? L'homme est libre. Et cette créature de l'homme qui est libre est pleine de contradictions. Alors c'est pourquoi le Midrash nous explique que pour pouvoir créer l'homme, il faut faire taire la vérité. Dieu n'acceptera d'écouter le jugement de la vérité sur l'homme que l'homme, lorsque l'homme aura réussi à faire l'unité des valeurs. Alors on écoutera la vérité, la culture va dire qu'il n'y a rien fait de le créer. Vous avez compris jusque-là ? Donc, ça veut dire que, disons, différentes formules, Dieu a gagné de vitesse ce conflit éternel des absolus concernant l'homme et a créé l'homme quand même. Minute. Ça veut dire que c'est une option de confiance faite en l'homme. La chose la plus difficile à comprendre, c'est ça. C'est que Dieu a foi en l'homme. Incompréhensible. C'est ça qu'il faut découvrir. Et puis, on n'acceptera pas d'écouter la vérité sur l'homme, parce que dès que la vérité commence à parler de l'homme, elle dit, c'est un être impossible. Un impossible nécessaire. Il n'y a qu'à lire le journal. N'importe quel journal, c'est le commentaire de ce midrash. Dans un journal, on vous raconte les comportements de charité, les comportements de mensonge, les comportements d'injustice et les comportements de guerre. C'est clair, okay? C'est ça qu'on vous raconte dans le journal. C'est-à-dire, n'importe quel journal, c'est le témoignage que l'homme est un être impossible. Ça va jusque-là? Bon. Ça, c'est une des premières implications du Midrash, mais surtout, vous voyez, l'opposition mentalité, que pour l'hébreu, l'évidence, mais qui est au-delà de la raison, c'est l'unité des absolus, et le problème à résoudre, c'est les contradictions de l'homme. Alors que pour la mythologie, c'est l'inverse. L'homme est une créature normale. C'est les absolus qui sont contradictoires. Vous avez compris cela ? Donc, alors je referme la parenthèse et on revient au sujet. Quelles étaient vos questions ?
Donc l'ange, c'est l'antagonisme de l'homme par
rapport à la nature ? À un certain niveau. C'est-à-dire, l'ange représente ici, on n'a pas appris ce que c'est un ange, mais dans ce langage, représente la volonté de Dieu s'exprimant dans un absolu particulier. Alors il dit donc que l'exigence de cet absolu disqualifie l'homme. Étant donné ce qu'est l'homme, si la vérité absolue c'est l'absolu de charité, tous les hommes sont disqualifiés. Sauf un héros de la charité qu'on va appeler Abraham. Okay? Etc. pour toutes les midot. Okay.
Est-ce que vous pouvez répéter la réponse finale?
Que la vérité germe de la terre. Ça veut dire la fin de l'histoire, on jugera l'homme s'il a réussi ou pas. En attendant, il est tordu. Bon, mais il est candidat à la rectitude. Vous y êtes ? C'est-à-dire il y a une option d'optimisme de la part de Dieu qui a fait un pari sur l'homme. Alors tant que l'histoire de l'homme est encore en train, il ne faut pas la juger, parce que si on la jugeait, on la condamnerait. Il n'y a qu'à lire le monde. C'est clair ce que je dis là ?
Oui ?
Non, je parle au journal, je pense au journal. Quoi, il a changé de titre déjà ? C'est bien qu'il est en train de faire faillite, moi. Ça va jusque-là ? Top. Alors, vous voyez, en tout cas, la différence des mentalités. L'affirmation de la conscience hébraïque, c'est que Dieu est un. Ça veut dire au-delà des midotes, qui elles sont contradictoires entre elles. Il y a un faisceau d'harmonie, d'unité au-delà qui est inconnaissable par la raison et qui est connu par la foi. Ça va jusque-là ? Mais retenez bien que ce problème de la multiplicité des midot et de l'unité de Dieu n'a rien à voir avec le problème que nous avons avec la théologie chrétienne de l'incarnation et de la Trinité. C'est toute autre chose. Okay ? Ne faites pas de fausses analogies. Okay ? C'est un problème spécifiquement de l'enseignement de la Torah. Dieu se révèle par des midot. Ces midot, c'est lui. Mais dans chacune de ces midot, il est différent. Par conséquent, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est un ? C'est clair ? En particulier, nous en aurons une illustration lorsqu'on commencera à étudier les 10 commandements. Et là, je commence à vous donner une référence. Vous allez explorer par vous-même, vous allez la noter. C'est dans le livre de l'Exode. Et vous essayerez de la préparer par vous-même. Donc, dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Verset 2. Donc, Shemot, chapitre 20, verset 2. Ça va ? J'entends pas. Qu'est-ce que tu dis ? Shemot. Ah, en hébreu, c'est Kaf, Ken. Alors, le premier mot des 10 commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha. Asherot Tetira Meret Mitzrayim. Alors, vous verrez ce que dit Rashi là-dessus. Vous voyez ce que dit Rashi sur ce deuxième verset. Okay. Préparez-moi ça pour la prochaine fois. Je vous aider brièvement à lire ce Rashi. Notez la référence, vous la chercherez par vous-même. C'est Dieu s'est révélé à Israël à la sortie d'Égypte, au passage de la mer Rouge, dans les événements que la Torah décrit, et que le Midrash formule comme un Gibor Milchama, un capitaine de guerre, un vaillant de guerre. Il fait gagner la guerre aux Hébreux contre les Égyptiens. Okay ? Voilà comment ils ont perçu l'intervention de Dieu dans l'histoire. Il intervient dans l'histoire. Et au Sinaï, il va se révéler pour donner la loi. Kezaken Maler Rachamim, comme un juge, c'est-à-dire un vieillard plein de miséricorde. Alors, comment affirmer que l'un c'est l'autre ? Vous voyez ce qu'on décrit comme problématique. C'est pourquoi les 10 commandements commencent par dire Anochi Hashem Elokecha Shevatitikha Me'eretz Mitzrayim, que vous traduisez comment le premier Anochi Hashem Elokecha, comment vous traduisez ? Non, non, vous ne perdez pas de temps. Vous ne savez pas traduire ? Le premier des 10 commandements, comment ça commence ? Anochi Hashem Elokecha. Je suis, n'est pas l'Éternel, Hashem, ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Okay. Rashi va vous expliquer, vous le verrez bien dans Rashi, que normalement le verset aurait dû dire Ani, si c'était je suis. Anochi, il y a une nuance, c'est quoi la différence entre Ani et Anochi ? Nous, les Hébraïsans. Ani et Anochi, ce n'est pas synonyme. Ani, ça veut dire je suis. Anochi, c'est moi qui suis. Anochi, c'est moi. C'est clair ? Il y a une confirmation, une affirmation. C'est moi qui suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'il y avait risque de se tromper. À la sortie d'Égypte, Dieu intervient comme un capitaine de l'armée israélienne. Et puis au Sinaï, il intervient comme un rocher Shiva. Qui va croire que l'un c'est l'autre ? Sauf quand c'est l'autre, quand c'est le même. Vous suivez ce que je veux dire ? Regardez bien les termes de Rashi. Okay ? Les termes de Rashi. Sur la mer, il s'est révélé comme un capitaine de guerre. Et au Sinaï, il se révèle comme un rocher Shiva. Vous comprenez à quel point ça correspond à nos problèmes de division. Il y a ceux qui suivent le capitaine de guerre, ceux qui suivent le rocher Shiva. Vous avez remarqué ? Alors, l'intervention de l'unité de Dieu consiste à dire l'un, c'est l'autre. Mais dans l'expérience, c'est tellement autre que c'est bien un acte de foi. Vous avez compris ? Il faut arriver à ce miracle, mais ça existe, qu'un rocher Shiva soit capable d'être général et qu'un général soit capable d'être rocher Shiva. Alors on a un juif. Ça existe. Si vous voulez, je vous donnerai des adresses. Bon. Ça va jusque-là ? Tant qu'ils sont séparés, il y a le problème de l'unité de Dieu qui est en question. Je veux dire ça en d'autres termes. Il y a les Juifs qui suivent le Moïse de l'histoire, celui de la sortie d'Égypte, la fin de l'exil, le sionisme. Il y a des Juifs qui suivent le Moïse de la Torah. Et ils n'arrivent pas à se rendre compte que l'un c'est l'autre. Voilà, c'est le même problème. Combien de Moïse il y a ? Il y en a au moins 2. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte, il a fondé le sionisme. Et à celui qui nous a donné la Torah, il a fondé la yeshiva. Et vous voyez, la société juive qui est coupée entre deux sortes de fidélité à Moïse, mais coupée. Alors, il y a ceux pour qui il y a un seul Moïse, et l'un et l'autre, et il y a ceux pour qui il n'y a aucun, ni l'un ni l'autre. C'est les 4 sortes de juifs dans ce problème. Vous les avez diagnostiqués. Il y a les juifs ni du Moïse de la sortie d'Égypte, ni du Moïse de la Torah. Il y a les juifs du Moïse de la Torah, progrès. Il y a les juifs du Moïse de l'État, progrès. Mais il y a, grâce à Dieu, les juifs des deux Moïse. Super ? Là, vous avez trouvé ça dans Rashi. Vous l'avez retrouvé par vous-même. Vous voyez, un autre exemple du même problème. Ça va jusque-là ? Bon. Alors, il me reste juste le temps de vous mettre en forme 3 lectures de ce verset qui nous mèneront à une 4e qui est celle de la prière. Enfin, de la prière, du rite du Kriyat Shema. C'est-à-dire ce verset dans la Torah. Nous allons essayer de comprendre ce qu'il signifie en lui-même. Je vais commencer par vous indiquer la 4e lecture, celle de la Torah, puis je vous en donnerai une 5e, celle de la Kabbalah, plus tard. Donc, c'est lorsque dans la prière, je dis prière, et vous savez que le mot est faux, mais dans le rite du Kriyat Shema, je dis, écoute, Israël, Hachem, qui est notre Dieu, est un Hachem 1. À qui je m'adresse ? Oui, la phrase est claire. C'est quelqu'un qui s'adresse à Israël. Bon, alors si je suis dans la communauté, je pourrais répondre comme ça. Je m'adresse à mes frères de la communauté. Écoute, Israël, notre Dieu, c'est le même. Vous avez compris déjà ? Je vais changer un peu le sens de la phrase. Hein ? Au lieu de dire un, je dis c'est le même. Mais on a compris pourquoi. Un, ça veut dire le même. C'est clair jusque-là ? Alors, si je prie dans la communauté, bien sûr, je m'adresse à la communauté. Mais si je prie tout seul et je dis, écoute, Israël, à qui je m'adresse ?
Moi.
Ah, en quel sens ?
En tant qu'Israël.
Bon, alors ça, nous le verrons au niveau de la quatrième. Réfléchissez à ça, c'est exact. Nous le verrons au niveau de la quatrième lecture. Dans le contexte de la Torah, écoute Israël, Shema Israël, Hachem, qui est notre Dieu, Elokeinu, Hachem est un Hachem, Echad, un. Dans le contexte de la Torah, c'est Moïse qui s'adresse à Israël. Vous suivez ? C'est clair ? Alors, première situation, Moïse s'adresse à Israël et lui dit, écoute Israël, Hachem, notre Dieu. J'ai nuancé le sens, suivez bien. Hachem, notre Dieu, à toi et à moi, est un, c'est le même. Vous suivez ? Bon. Avant de vous mettre cette première lecture en forme, mais suivez bien, je vais d'abord vous mettre en garde sur le sens du mot Shema. Shema, en hébreu, ça ne veut pas dire simplement écoute. Ça veut dire prends garde. Shema, attention. Vous avez compris cela ? Shema, c'est une exhortation. Et à qui est donnée cette exhortation de prendre garde au fait que Dieu est un, d'Afka au seul monothéiste qu'il y a dans le monde, Israël. Vous sentez le paradoxe. Ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Israël, à la sortie d'Égypte, a eu l'expérience de l'unité de Dieu, pas de révélation. Mais c'est des moments exceptionnels. Il va rentrer dans le monde avec une consigne, Shema Israël, fais attention à Israël, n'oublie pas ça. Vous y êtes jusque-là ? Mettez plus d'accent sur le mot de Shema qu'on en met habituellement. Si je traduis par écoute, ça ne veut rien dire, puisque toute la Torah, on l'a écouté. Pourquoi écoute ça en particulier ? Ça veut dire Shema. Et fais bien attention à ça. Quelle raison avait Moïse d'exhorter Israël à ne pas oublier que le Dieu d'Israël et le Dieu de Moïse, c'est le même ? Vous suivez ? C'est clair ? Ça, vous allez l'apprendre dans le. Notez bien maintenant, cette fois, dans le chapitre 19 de l'Exode, que vous allez lire attentivement pour la prochaine fois. Et surtout les 9 premiers chapitres, et c'est dans les 9 premiers versets, et dans le verset 9 que vous aurez la réponse. Et je vais vous le dire très brièvement aujourd'hui, mais étudiez-le par vous-même.
Le verset 9,
le verset 9 du chapitre 19 de l'Exode, de Shemot. Ça veut dire que jusqu'à la sortie d'Égypte, les Hébreux avaient une certaine foi, une certaine fidélité, une certaine tradition, avant de recevoir la Torah. Découvrez bien cela. Jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'au Sinaï, les Hébreux n'avaient pas entendu parler de Torah, sauf la tribu de Lévi, tout ça on verra en détail. Bon. Leur religion, leur foi, leur tradition, c'était la promesse faite aux ancêtres que l'exil prendrait fin. Bien. Et ils ont suivi Moïse qui vient accomplir cette promesse. Ceux qui ont reconnu Moïse, s'en sont sortis, la sortie d'Égypte, les autres sont perdus dans le paysage égyptien. 4/5, comme vous savez, la diaspora. Donc, c'est clair. Et voilà qu'ils arrivent au Sinaï. Et au Sinaï, il y a quelque chose de radicalement nouveau qui apparaît. Je vais vous donner une Torah. On n'avait pas entendu parler de ça. Jusque-là, on avait entendu parler de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un sionisme pur et simple. On finit l'exil, et puis on rentre chez soi. C'est ça la religion d'Israël, jusqu'au Sinaï. Au Sinaï, Moïse va dire, il y a une Torah à la clé. Vous suivez ? Alors, lisez attentivement ce qui s'est passé au chapitre 19. Et pourquoi il y a eu la révélation du Sinaï ? Et vous verrez que c'est pour habiliter Moïse que le Moïse de la sortie d'Égypte et le Moïse de la Torah parlent au nom du même Dieu, un. Parce que ce n'est pas évident. Et la preuve, dans la société juive, ce n'est pas évident. Vous avez encore une fois ceux qui suivent Moïse de la sortie d'Égypte ou ceux qui suivent Moïse de la Torah. Dans quelle tête ça s'accroche ? Ça s'accroche chez les monothéistes, vraiment. C'est-à-dire pas ceux qui sont ou sionistes ou religieux, mais qui sont les deux à la fois. C'est clair ? L'un sans l'autre, ou l'autre sans l'un, c'est la peste et le choléra. Ça, mettez-vous bien ça dans. Très souvent, on pose la question comme ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas être religieux sans être sioniste ? Torah, Moïse, Torah. Est-ce qu'on ne peut pas être sioniste sans être religieux ? Moïse, l'histoire, la sortie des. Et est-ce qu'on ne peut pas être normal, les deux à la fois ? Pourquoi vous voulez qu'on choisisse entre la peste et le choléra ? Okay ? C'est clair ? Je pense que c'est clair. Ouais. Par exemple, on me pose la question comme ça, qu'est-ce qui vaut mieux ? Être pieux à Sarcelles ou être athée dans un kibbutz de la Chemin d'Atsaï. Est-ce qu'on ne peut pas être un juif normal à Jérusalem ? Tout à fait. Vous voyez comment les juifs sont compliqués. Hein ? Bon, alors ne croyez pas que ça vient, c'est un défaut, un vice de forme. C'est un problème grave. arriver à maîtriser ces deux médiations différentes jusqu'à voir que c'est la même. Et pour voir que c'est la même, le Moïse des uns et le Moïse des autres, que c'est le même Moïse, c'est ça la foi juive. J'ai compris le problème. On étudiera ça plus en détail dans le chapitre 19. Ça va jusque-là ? Non. Alors, ça, c'est le contexte historique. Okay ? Moïse, avant sa mort, s'adresse à Israël dans une exhortation importante. N'oublie pas Israël, notre Dieu, c'est le même. Ça veut dire quoi ? Ton Dieu à toi, Israël, ta foi dans la promesse faite au patriarche. Vous voyez, la foi d'Israël a commencé par être la foi sioniste, que les promesses de la fin de l'exil s'achèveront, et ma loi à moi que je te donne au nom du même Dieu. Vous suivez ? Je vais vous montrer dans le texte du Kriyat Shema très rapidement, mais je vais quand même signaler les deux autres lectures. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Deuxième verset. Ve'afta et Hashem Elokecha. Vous suivez ? Ça veut dire, et tu aimeras Hashem ton Dieu, comme tu l'as connu avant le Sinaï. Troisième verset, Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha ayom alevavecha. Et seront les paroles que moi je te prescris sur ton cœur, les mitzvot. Premier verset, l'unité des deux. Deuxième verset, continue à aimer Dieu comme tu l'as connu. Troisième verset, ajoute la Torah. Ça va ? Dans l'existence, nous vivons les choses à l'envers. Ceux qui ont la foi, c'est pas les hommes de la Torah, c'est les hommes de l'histoire juive. Et en plus, il faut la Torah. Vous y êtes ? Et donc, ça veut dire que j'ai dit que les hommes de la Torah qui ne sont pas dans l'histoire juive n'ont pas la foi. Ne croyez pas que c'est une blague, c'est malheureusement vrai. On ne sait pas en quoi ils croient. Les hommes de la Torah qui ne sont pas dans l'histoire juive n'ont pas la foi. Puisqu'on se demande en quoi ils croient. En tout cas, ils n'ont pas la foi juive. La foi juive, c'est quoi ? Prenez-la depuis le commencement de l'histoire des patriarches. On est en exil en Égypte. Qu'est-ce que c'était la foi juive ? Torah, il n'y avait pas. Okay. C'était qu'on croyait que les promesses faites par Dieu aux patriarches s'accompliront. C'est-à-dire que l'exil prendra fin, qu'on reviendra à Jérusalem. Pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la foi juive. Que la Géoula est possible. Vous vous rappelez de cette analyse ? Maintenant, ceci dit, ce même Moïse qui a sauvé Israël d'Égypte révèle qu'il y a une loi à la clé. C'est plein de problèmes. Alors les Hébreux ont dit que Dieu vient nous le dire. Vous allez voir ça dans le chapitre 19. C'est comme si Moïse s'amenait avec un nouveau testament. Alors, les Hébreux lui ont dit, eh ben, il faut que Dieu se révèle. Vous voyez, à quel point ce n'était pas évident, c'est clair ? Et relisez attentivement le texte, vous verrez à quel point on ne sait pas le lire. Bon, voilà cette lecture que je vous ai appelée la lecture Moïse s'adressant à Israël. Vous voyez, c'est une première situation qui se définit très simplement. Qui peut s'adresser à tout Israël en lui disant « Shema Israël, Hashem Elokeinu » ? C'est Moïse. C'est le contexte historique, c'est clair ? Le Midrash va restituer deux autres lectures. Au commencement de l'histoire d'Israël, quel est le premier homme qui s'appelle Israël ? Jacob. Et le Midrash va nous raconter, à propos du chapitre 46 de Bereshit, dont il a référence, 49. Oui, 49. À propos du chapitre 49 de Bereshit, dont je vais vous résumer le sujet très rapidement. Au moment de sa mort, Jacob, vous verrez dans le texte, au moment de sa mort, Jacob a voulu leur dévoiler l'avenir et la fin du temps de l'exil d'Égypte. La prophétie le quitte, vous suivez ? La prophétie le quitte et il se borne à les bénir. On retrouvera ce thème la prochaine fois que vous l'aurez préparé dans le texte. Le Midrash explique comme ça. La prophétie le quitte, alors il a un doute. Est-ce que c'est vraiment ses enfants à qui il parle qui sont Israël ? Il veut révéler la fin de l'exil d'Israël, il n'y arrive plus. Peut-être qu'il y a une faute parmi les enfants d'Israël. Alors le Midrash dit qu'ils se sont tous levés auprès de son lit et ils ont dit pour la première fois de l'histoire cette phrase, Shema Israël, écoute Israël, notre père, Hashem Elokeinu, Hashem qui est notre Dieu à chacun des tribus, Hashem Echad, c'est le même. Alors voilà, une deuxième lecture complètement différente. C'est l'affirmation de l'unité d'Israël à travers l'affirmation de l'unité du Dieu d'Israël. Le risque, c'est la désunion à l'intérieur d'Israël. Alors, l'affirmation qui vient lutter contre ce risque, c'est l'affirmation que chacune des tribus d'Israël reconnaît le même Dieu, celui de Jacob. On aura diagnostiqué cela dans la société contemporaine, rassemblé des différentes manières d'être juif, j'en avais une infinité. De multiplicité à multiplicité, vous les ramenez à 13. Bon, 13 types de juifs, vous les avez au Parlement. Alors essayez d'entendre, quand chacun dit « Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad », qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez que c'est au-delà de la raison. Vous avez compris à quoi je fais allusion? Quand la Goudat Israël dit « Shema Yisrael », quand la Shomer HaTzair dit « Shema Yisrael », que c'est le même, ou pour le voir que c'est le même, que l'un c'est l'autre. Vous comprenez? Chaque tribu a une fonction, et il faut qu'elles soient ensemble pour que l'unité apparaisse. Alors vous voyez à quel problème correspond cette lecture, à un niveau sociologique. C'est clair? Alors, au début de l'histoire, les enfants de Jacob s'adressent à Israël pour lui dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad ». Pendant l'histoire, c'est Moïse qui s'adresse à Israël pour lui dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » dans le thème que nous avons vu, la loi et la foi. Et vous allez voir maintenant Rashi, c'est pour ça que je vous avais fait ouvrir ces livres au début du cours, et on est juste à l'heure. Rashi nous dit que, ça vous le préparez pour la semaine prochaine, c'est Rashi sur le chapitre 6, verset 4 de Devarim. Vous avez les livres devant vous, de Rashi. Chapitre 6, verset 4 dans Devarim. Vous avez ouvert les livres de Rashi? Oui? Bon. Alors je lis rapidement. Voilà ce que nous dit Rashi. Voilà, vous l'avez ici dans ces livres, à la deuxième ligne de Rashi. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors, suivez avec moi. Et après, je résumerai ces trois lectures. Alors, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Hashem Shehu Elokeinu Ata, Hashem qui est notre Dieu à nous maintenant, Velo Elokei Haumot, et pas le Dieu des autres peuples, pas reconnu par eux, ou Atid Liyot Hashem Echad, est destiné à être un Hashem 1. C'est clair? Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Tiazer Poch El Amim, je déverserai sur les peuples, Safa Brura, une langue purifiée, L'Ikro Kulam Beshem Hashem, de telle sorte qu'ils invoquent tous le nom de Hashem. Et il est dit, Benehemar, Bayom Ahu, en ce jour-là, Ihi Hashem Echad, Dieu sera un, Ushmo et son nom Echad sera un. À travers ce Rashi apparaît une troisième situation. C'est qu'à la fin des temps, ce sont les Goïm qui s'adresseront à Israël pour lui dire Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem. Vous avez compris? S'il vous plaît. Si je comprends bien ce Rashi, ça veut dire cette phrase est dans la bouche de qui? À la fin des temps, dans la bouche des Goïm, qui diront à Israël, notre Dieu c'est le même. Alors je vous récapitule ce plan. Au début de l'histoire, les tribus d'Israël à leur père. Pendant l'histoire, Moïse à Israël. À la fin de l'histoire, les nations du monde s'adressant à Israël. Et il me reste une seule question sur ce plan-là. C'est pourquoi Rashi n'a cité que le troisième Midrash et pas les deux premiers. Vous y êtes ? Oui, tous ces textes-là, vous les verrez en détail. Hein. Sinon, ils ne seront pas intégrés. Mais je pense que l'idée est suffisamment simple. Il y a ici une affirmation qui construit quelque chose. Première lecture, il faut construire l'unité d'Israël, et ce n'est pas évident. Chaque tribu peut être un Israël indépendant l'un de l'autre. Okay, vous voyez, toute la tension de la société juive est là-dedans. Dire que le dieu de Réhouben et le dieu de Issachar, c'est le même, les tribus d'Israël, c'est un peu aussi difficile que de dire que le dieu de la Goudat d'Israël et celui de la Shomer HaTzair, c'est le même. Vous avez compris le problème? Bon. Deuxième lecture, c'est Moïse s'adressant à Israël. Israël a la foi, la sortie d'Égypte, et Moïse lui apporte la loi. Et puis, troisième lecture, qui s'adressant à Israël peut dire cette phrase? C'est les nations du monde, selon le Midrash que cite Rashi, qui diront en fin de compte à Israël, écoute Israël, notre Dieu c'est le même, Zamat. Donc, oui, on est arrivé. Hein? On est presque un peu à ce temps-là. Hein? Alors, ma question, pourquoi Rashi a choisi le troisième Midrash?
Peut-être parce qu'il a vu les deux premiers.
Pas exactement comme ça. C'est un peu ça, mais pas exactement comme ça. Ça veut dire que les deux premiers sont déjà acquis, qu'on le veuille ou pas. Les deux premiers sont déjà acquis, qu'on le veuille ou pas. Ça fait problème pour des individus, mais le monde a pris acte. Tous les Juifs sont des Juifs, quels qu'ils soient. Okay? Quand on veut s'attaquer à la Shomer HaTzair, parce qu'il construit Israël, alors on met une bombe à Anvers chez les orthodoxes. Vous avez remarqué ça? Donc, ça veut dire tous dans le même bateau. Quelles que soient les apparences, le monde entier a pris acte, tous les Juifs c'était Juifs. Ouf, Jacob a eu raison de dire « Bon, je sais pas. » Ça va? Donc, d'autre part, quelle que soit la difficulté du problème, les Juifs de la foi et les Juifs de la loi sont aussi dans le même bateau. Ils sont condamnés à être ensemble. On a pris acte de ça. Il y a une chose qui est encore en question, c'est que l'humanité reconnaisse qu'il y a un seul lieu, c'est celui d'Israël. Elle commence Vous avez compris ? Donc. Et je vais raconter une petite blague, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Mais vous me préparez tous ces textes pour mercredi prochain, hein, et vous apportez vos quatre livres. Vous connaissez la grande synagogue de Paris, à la rue de la Victoire. Okay. Récemment, la grande synagogue de Paris, là, la cathédrale là-bas, la rue de la Victoire. Victoire, oui. C'est juste à côté de la rue Leurdame des Victoires. Et alors, il y a quelque temps encore, il y avait une chorale qui chantait la prière. Je crois que ça n'existe plus depuis que le consistoire est devenu orthodoxe. Il y avait une chorale de chanteurs qui chantaient « Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Il m'est arrivé une fois dans ma vie d'être un vendredi soir dans cette synagogue. Et quand la chorale a chanté là-haut, c'était très beau, l'opéra. Chanter Shema Israël avec des airs d'opéra. Et puis en sortant, je dis, ils sont bien ces juifs. Il me dit non, ils sont tous des goïms, là, dans la chorale. Alors, c'était tous des goïms, des chanteurs professionnels qui chantaient à la chorale, quoi. Alors, c'était la situation où les goïms disaient à Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, mais ni nous, ni vous, on y croit. Bon, je referme la parenthèse. Alors, c'est Barcelone, merci de votre attention.